Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à vous, nous revoilà pour une 3e saison de Yes, le podcast de Warrior. Nous sommes ravis de vous retrouver après ce long et très spécial été 2020 pour célébrer à nouveau les victoires de meufs contre le sexisme. Je suis Anaïs et on ne change pas une équipe qui gagne, alors je suis toujours entourée de mes deux pourfendeuses du patriarcat. Salut Margaïde.
Salut, bonne rentrée, youhou.
Salut Elsa.
Hello.
Vu que l'été a été bien merdique, pour compenser, on va commencer par plein de bonnes nouvelles, parce que oui, on en a. Et la toute première, c'est que notre réalisatrice préférée est de retour parmi nous. Salut Amida.
Salut, wouhou, derrière la vitre là-bas, coucou.
Tu nous as manqué, on est trop contente de commencer cette nouvelle saison avec toi, entre meufs, tranquillement. Deuxième bonne nouvelle, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu louper cette info, Elsa, en collaboration avec Axel Gay, vous a concocté un jeu inspiré de Yes. C'est un jeu de cartes collaboratif qui nous entraîne à répliquer contre le sexisme. Vous pouvez le précommander sur Ulule, et d'ailleurs, Elsa, vous avez explosé l'objectif en quelques jours, tu nous en dis plus ?
Carrément, on est super contente parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'engouement autour du jeu, mais voilà, en tout cas, disponible donc sur ulule.com/moi c'est madame. Moi c'est madame, c'est le nom du jeu. Il est effectivement inspiré de Yes et il y a beaucoup de répliques à la fois attaque et riposte qui viennent du podcast. Donc si vous êtes habitué du podcast, vous allez sûrement les reconnaître. Et du coup, voilà, je vous invite à aller regarder sur Ulule. On a vraiment tout expliqué le concept du jeu. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas sur les réseaux sociaux à nous écrire. Et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours de test du jeu.
N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire vos retours. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous régaler et à vous entraîner bien comme il faut. Et enfin, troisième bonne nouvelle, cette année, on repasse à 2 épisodes par mois et avec une nouveauté. Ça nous fait mal parfois de couper des témoignages un peu longs pour rythmer l'épisode, alors on s'est dit qu'on aimerait pouvoir prendre le temps d'échanger avec certaines d'entre vous. Du coup, tous les mois, l'une de nous trois vous présentera une warrior qui l'a inspirée et on lui laissera le temps de développer son parcours, ses stratégies pour vous servir encore plus d'infos et encore plus de motivation. On pense que le progrès, ça passe surtout et avant tout par nous, que si on s'informe, on grandit tout ensemble. Alors on va tâcher d'ailleurs dans ce sens-là. Et Marga, c'est toi qui va ouvrir le bal, qui tu nous présentes ce mois-ci?
Oui, alors je vais vous présenter Élise, qu'on connaît un peu mieux sous le nom de Gara Lagarce, pseudonyme mystérieux. Nice. Donc Élise qui fait du roller derby et qui a dénoncé une agression sexiste dont elle a été victime et qui a permis de faire bouger pas mal de lignes au sein de la Fédération Française de Roller.
Trop bien.
On a hâte d'entendre ça. Bon, et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et que c'est la tradition chez Yes, vous deux, vous avez eu des victoires, petites ou grandes, cet été?
Alors moi, je vais rester dans le roller derby, ce sport merveilleux que je pratique depuis de nombreuses années. Avec un groupe de copines, on est en train de créer un nouveau club à Marseille.
Trop bien.
Voilà, donc après pas mal d'années à le pratiquer en mixité, c'est-à-dire avec des hommes, et on choisit de le faire sans hommes. Voilà, de créer
c'est toujours mieux.
Voilà, de créer un nouveau club avec un projet associatif qui soit vraiment sur les valeurs de base du roller derby, donc qui, je vous rappelle, est un sport qui se pratique sur patin roulette, un sport d'équipe super badass et super drôle, et créé à la base aux États-Unis par des femmes et pour les femmes. Et voilà, donc on revient un petit peu aux origines de ces valeurs-là.
Charmé, bravo.
Trop cool.
Et toi, Elsa ?
Bah écoute, moi j'ai pas de victoire incroyable. J'ai passé l'été à Marseille tranquille. Après, c'est clair que j'ai quand même beaucoup bossé sur le jeu et qu'au final, la victoire c'est plutôt maintenant là, cette semaine, de voir que ça marche, quoi, que je récolte les fruits de ce travail, quoi.
Ouais, donc c'est
ça.
Pas une toute petite victoire.
Ouais, ouais, non, mais c'est super cool. Franchement, je suis super contente.
Trop et toi, bien. Naïs, alors ta victoire de l'été ?
Bah moi, ça a été une petite révolution cet été, à la fin de l'été, mais j'ai commencé une thérapie. Je pense que j'aurais dû commencer bien plus tôt, en fait, pour arriver à survivre à toutes les violences que j'ai vécues par rapport à Paytechnik. Et en fait, tout a tourné autour de mon ex, le violeur. Mm-hmm. Et donc, en fait, je lui ai écrit. Et wow. Je lui ai écrit une très longue lettre dans laquelle je lui ai expliqué tout ce qu'il m'a fait avec mes mots et avec la colère que j'avais en moi. Donc, ça a été un truc, mais... Je m'en sentais même pas capable, je pensais jamais faire ça un jour dans ma vie. Et à partir de là, en fait, j'ai eu l'impression d'enlever le frein à main, j'ai recommencé à bosser, j'ai rouvert la boutique Mauvaise Compagnie. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai enlevé le frein à main que j'avais en fait depuis des années. Donc voilà, je dis pas que je recommande à tout le monde de le faire parce que franchement, c'est compliqué comme moment. Et je l'ai bloqué partout après pour être sûr que de jamais avoir son avis, en fait, ça m'intéresse pas. Mais j'ai l'impression d'avoir fait un pas de géant, quoi. Et du coup, voilà, je suis très fier de moi et c'est grâce à tous mes abonnés de Paytechnik qui ont pas arrêté de me dire qu'il et elle l'avaient fait suite à mes publications. Ça m'a donné le courage de le faire, donc merci tout le monde, merci beaucoup.
Bravo hein, franchement
c'est super fort, quoi. Quel courage.
Je suis très fière.
Oui,
ouais, tu
bravo.
Peux.
Bon, voilà. Maintenant, gonflée de toute cette fierté, je vais pouvoir vous annoncer le thème de cet épisode.
Allez, c'est parti.
Donc, c'est le premier épisode de la saison et on va parler de sexisme intériorisé. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est très simple. Quand on grandit dans une société patriarcale, on est toutes et tous exposés au sexisme depuis le plus jeune âge. De fait, on grandit dans cette ambiance et qu'on le veuille ou non, on intègre les règles du jeu, le moins drôle du monde. Qu'on ait grandi dans une famille super sexiste ou super féministe, on n'y coupe pas, à moins de vivre en dehors de la société depuis la naissance. On est forcément au moins un peu imprégné par la misogynie, mais aussi le racisme, l'homophobie et toute forme d'oppression dite systémique. Du coup, les hommes cisgenres sont en position de domination, mais ils n'ont pas le monopole du sexisme. Nous aussi, on a des raisonnements problématiques, des comportements compétitifs vis-à-vis d'autres femmes et des jugements pleins de culture du viol, de paternalisme et autres joyeusetés dont on va ensemble tenter de se débarrasser. Poubelle, et on referme bien le couvercle, s'il vous plaît.
Allez !
Bon, je vous spoil un peu l'épisode, mais la meilleure arme pour en finir avec nos propres représentations sexistes, c'est la sororité. Donc il ne s'agira pas dans cet épisode de taper sur les vilaines femmes qui n'ont pas conscience de leur propre sexisme, mais plutôt de montrer comment on s'en sort et comment c'est souvent grâce à une femme qu'on y arrivera. Le sexisme intériorisé, c'est aussi parfois une stratégie inconsciente pour s'en sortir dans un monde où l'autre moitié de la population nous domine. C'est donc complexe à déconstruire, mais nos warriors vont vous prouver que c'est possible. Elles ont rembarré, elles ont expliqué, elles ont convaincu, elles ont prouvé. Nos warriors de ce 25e épisode vont vous montrer que le sexisme intériorisé, c'est tout sauf une fatalité. Et sans plus tarder, on commence par notre première warrior.
Et on va parler de Jeanne. Jeanne qui est étudiante, qui a 19 ans et qui a réussi à convaincre sa meuf qu'elle n'était pas vierge.
Donc j'étais avec ma copine de l'époque depuis plusieurs mois. Un jour, en discutant de choses et d'autres, elle arrive à me dire qu'elle est vierge. Donc je suis assez étonnée parce qu'on avait des rapports sexuels depuis plusieurs mois. Donc. Et en fait, je comprends qu'elle se considère vierge tant qu'elle n'a pas eu de pénétration vaginale et qu'elle n'arrive pas à comprendre ma vision, qui est moi, on est plus vierge quand on a eu des rapports sexuels, tout simplement, parce que selon elle, son corps sera changé dès l'instant qu'il y aura eu un pénis dans son vagin. Et voilà, donc moi j'essaie de lui expliquer que non, ça marche pas trop comme ça, etc. Mais sa vision est assez ancrée en elle pour que j'arrive pas trop à déconstruire ça toute seule. Donc un jour, j'ai eu l'idée de lui envoyer quelques vidéos trouver sur YouTube qui en quelques minutes déconstruisent le mythe de la première fois ou encore parlent de la sexualité entre femmes et des vidéos assez drôles en plus. Et donc ça lui a permis, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit tout de suite qu'elle comprenait tout ce que je lui avais dit jusqu'alors et que elle comprenait que sa vision était biaisée, était sexiste et homophobe aussi, et donc c'est une super victoire pour moi. Et on en a reparlé pas mal après, et ce qui est bien, c'est que elle a continué à en parler avec les femmes autour d'elle qui pour la plupart ont aussi cette vision biaisée et phallocentrée de la première fois et même de la sexualité en général. Une chouette victoire.
Bravo, Jeanne.
Bon, bah, là, franchement, ça m'a vraiment étonnée parce que c'est, enfin, j'ai déjà entendu plein de fois ces histoires de virginité et tout, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, qu'une femme lesbienne pouvait se penser vierge, en fait, et se dire presque, on dirait qu'il lui manque un truc, et comme elle dit, mon corps sera changé, etc., etc.
J'ai été traversée par la bite, oh mon Dieu,
voilà,
je suis une nouvelle
femme. C'est ça. Et du coup, je me dis, mais c'est dingue, qu'est-ce que ça veut dire vierge, c'est quoi ce mot, etc. Bon, j'ai regardé sur Wikipédia, donc la virginité, c'est un concept relatif à une personne n'ayant jamais eu de relation sexuelle, donc il n'est pas précisé si c'est
avec
des relations
hétéro
ou pas. Voilà, ne reposant pas sur une base biologique, puisque ces histoires d'hymen, hein, c'est n'importe quoi en fait. L'hymen, il peut avoir été brisé par tout un tas de choses en fait, avant la première fois, on va dire, dans le cadre d'une relation hétéro en tout cas.
Il est déjà troué de base en fait. C'est un
et voilà, il y a déjà un petit trou, donc voilà. Et puis tous les hymens ont des formes différentes en plus, enfin bref. Donc je vous incite vraiment à aller faire des recherches là-dessus si vous n'étiez pas au courant, parce que ça va vous faire réfléchir, je pense. Du coup, voilà, la virginité, c'est un fait social, culturel et religieux. Et on dit aussi que c'est surtout la virginité féminine qui représente un enjeu, alors que celle des hommes n'a pas beaucoup d'importance.
Je crois que c'est une histoire de, faut savoir à la, si jamais il y a fécondation et enfant, qui est le propriétaire de cet enfant.
Exactement.
Le doute sur la fellation. La filiation.
Oui, tout à fait. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a toute une dimension religieuse, tout ce qui est les tests de virginité, certificat de virginité. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'affaire de T.I., le rappeur T.I., qui en fait a dit dans une interview qu'il emmenait sa fille tous les ans chez le gynéco pour savoir si elle était toujours vierge. Il s'est fait allumer en tant que malade.
Bien.
Après, il allait dans l'émission de Jada Pinkett, Red Table Talk, pour débriefer un peu. Et Jada, donc, lui a bien expliqué la vie, hein, pourquoi c'était problématique de faire ça. Et après, juste un point sur le mot phallocentré, parce qu'elle dit ça dans le témoignage. Bah, en fait, ça veut dire que tout est centré sur le pénis, en fait. C'est la toute puissance du pénis sur nos corps. Moi, ce qui me fait bader dans cette histoire, c'est que tous les jours, on nous envoie des messages qui sous-entendent que, en fait, notre existence sans les hommes n'est pas une vraie existence. Enfin, notre virginité dépend d'un homme, etc., etc. Donc, je pense qu'on pourrait annuler ce mot vierge, hein, parce que franchement, il sert pas à grand chose, et éventuellement le remplacer par autre chose. Si vous avez des suggestions, envoyez-nous vos suggestions. Et je vous mets dans la description les vidéos dont elle parle qu'elle a envoyées à sa meuf.
Ou juste enlever cette notion. En fait, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'une personne ait eu ou pas des rapports sexuels avec quelqu'un ? Elle a peut-être eu des rapports sexuels avec elle-même.
Oui, non, bien sûr. Après, je peux comprendre que ce soit un moment symbolique important pour quelqu'un de la première fois que tu as un rapport sexuel avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que ce mot-là, il est trop hétérocentré déjà.
Et en fait, il est carrément politique, quoi.
Voilà,
c'est
exactement.
Une contrôle
exactement.
Du corps,
c'est... Tout à fait.
Bien, eh ben bravo Jeanne pour cette victoire. Merci Elsa de nous l'avoir présentée. Et Marga, tu nous présentes notre seconde warrior.
Oui, c'est Marion, elle habite dans le Var. Et pendant le mois d'août, au cœur de l'été, elle a été refoulée d'un supermarché dans lequel elle faisait ses courses. Voilà. À cause de sa tenue, donc un petit top et une mini-jupe, voilà. Qui apparemment a choqué le vigile Choupinet. Voilà.
Non, c'était pas une tenue républicaine.
Voilà, ça doit être ça. Alors, quel rapport avec le sexisme intégré jusqu'à présent ? Mais écoutez,
je comprends pas. Alors je lui demande pourquoi en fait, qu'est-ce qu'elle a ma tenue. Je suis restée bouche bée. J'ai demandé de voir la direction et la dame se trouvait juste derrière moi, caisse rapide. Donc je pense qu'elle a entendu la petite discussion avec l'agent de sécurité. Et je lui ai dit bonjour madame, pourquoi je ne peux pas rentrer, qu'est-ce qu'elle a ma tenue. La dame s'est tout de suite mise contre moi, elle a donné raison à son agent de sécurité. Elle a ricané en me disant non, ce n'est pas possible, vous êtes dénudée, on voit tout à travers, non, vous ne rentrez pas. Alors j'ai pas compris tout ça. Toute la clientèle me regardait, je me suis sentie humiliée. Et du coup, j'ai fait demi-tour, je suis partie.
Donc Marion, elle n'en est pas restée là. Hein. Arrivée chez elle, elle raconte son histoire sur les réseaux sociaux avec quelques photos. Elle obtient tout de suite des dizaines de soutiens. Et elle est allée ensuite porter plainte, en fait, pour discrimination. Bien. Donc très bien. Wow. Et là, le journal local, Var Matin, se fait écho de son histoire. Et donc face au bad buzz médiatique, le groupe de distribution tente un petit peu de se rattraper.
J'ai eu les excuses de Casino, bien sûr. Monsieur très correct, le directeur régional qui est venu me rendre visite en me présentant ses excuses. Mais oui, j'ai eu madame la directrice... qui a été très très méchante avec moi, qui s'est aussi excusée par téléphone à un agent de police et qui lui a dit qu'elle souhaitait me faire une remise commerciale. Ben je sais pas, un bon d'achat, je sais pas. Une remise commerciale, peut-être un pourcentage sur mes commissions, je sais pas. Et je pense que non, c'est pas acceptable. On s'excuse pas d'une situation comme ça avec un client, avec une remise commerciale ou un bon d'achat quoi. Oui, je l'ai refusé.
J'aurais même pas pensé.
Et ouais, la dignité ça s'achète pas avec des bons d'achat quoi,
incroyable.
Sérieux. Et en plus, il y a plein d'endroits où faire ses courses, quoi. Elle a aucun besoin. Enfin voilà, elle y retourne plus dans ce magasin de toute façon.
Ça m'étonne. Faut plus que personne n'y retourne. En
mais
fait.
C'est clair, quel enfer.
Et ben bravo Marion hein, pour le courage et tout, la démarche.
Trop c'est forte.
Clair. Donc là, elle attend un peu des suites de sa plainte. Forcément, ça prend un peu de temps. Ouais. Voilà. Donc j'en profite pour signaler qu'en ce moment, on dirait que les décolletés, ça dérange quand même pas mal de monde en ce moment. Donc il y a eu le cas de Marion, mais aussi le cas de Jeanne qui a été refoulée du musée d'Orsay à Paris début septembre. Et là encore, c'est une femme qui lui a refusé l'accès au musée. Donc voilà, c'est tout simplement du slut-shaming, c'est-à-dire qu'on disqualifie une femme de par sa tenue. Ça, on peut aussi le faire par son comportement. Souvent, on dit d'une femme qu'elle est vulgaire. Voilà. Et souvent, les femmes sont parfois plus sévères même pour critiquer les tenues, les comportement des autres femmes à faire un peu la fashion police et à dire qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qu'il ne faut pas porter. Du coup, en parlant de ça, soutien énorme aux lycéennes qui actuellement, en ce moment, sont en train de se mobiliser. Donc, un mouvement qui a commencé le lundi 14 septembre pour dénoncer les normes vestimentaires sexistes dans les lycées. Parce que oui, encore aujourd'hui, dans les lycées, les règlements intérieurs ont parfois des règlements vestimentaires différents pour les filles et les garçons. Par exemple, les garçons peuvent mettre des shorts et par contre, les filles n'ont pas le droit à la jupe au-dessus du genou. Donc voilà, donc elles se sont toutes habillées avec des jupes, avec des crop tops, avec voilà pour manifester.
Ce qui est important de préciser, c'est que souvent ces règlements, ils sont défendus avec des arguments fallacieux et eux-mêmes encore plus sexistes que le règlement lui-même. C'est-à-dire qu'on dit que les tenues courtes des jeunes femmes distrairaient les garçons. Donc ça veut dire qu'on priorise quand même l'éducation des garçons sur celle des filles, puisque la fille en question, elle, va par contre être privée d'enseignement toute la journée quand elle est virée, ce qui arrive très fréquemment.
Il y a aussi les filles provoquent. Oui. Les garçons qui du coup les agressent, voilà. Donc c'est un peu de leur faute. Donc
on renverse
complètement la culpabilité, c'est-à-dire c'est les victimes qui se sentent coupables.
Au lieu d'apprendre aux garçons à ne pas agresser, on préfère cloîtrer les filles et puis contrôler bien leur façon de s'habiller.
Et ma sœur qui en terminale m'en a parlé de ce mouvement et elle m'a dit qu'ils avaient prévu de faire une journée où les garçons viendraient en crop top.
Ah,
et voilà, j'espère qu'ils vont le faire parce que franchement, en solidarité du coup.
Tu sais que le crop top, ça a été créé pour des hommes en plus.
Ah ouais.
C'était des équipes de football américain, je crois, qui mettaient ça pour contre la canicule et tout, qui jouaient en plein soleil. C'est vraiment un accessoire pour hommes à la base.
Comme les talons, en fait. Les talons à la base, c'était à la cour de Versailles et compagnie. Bah ouais. Enfin, voilà quoi.
Bon, on est bien en 2020.
Ouais. C'est clair.
Eh bien, on passe à notre troisième warrior, c'est Laura dont on va parler.
Oui, alors Laura, en fait, elle était posée en terrasse tranquille quand elle a été témoin d'une scène de sexisme assez ouf.
En fait, j'étais posée sur une terrasse un matin en train de prendre un café, en début de journée. Et il y avait une petite fille, je sais pas, elle devait avoir 5-6 ans, un truc comme ça, qui était assise sur les genoux de sa maman. Elle pleurait hyper fort, vraiment, elle avait l'air super triste et sa maman essayait de la consoler. Et du coup, mon regard, il se tourne un peu vers elle, plutôt avec de l'affection, parce que je suis très sensible et c'est vrai que les larmes des autres me touchent assez vite. Bref, j'observe la scène de loin et je sais pas, je sentais qu'il allait se passer un truc, c'était bizarre. Et tout à coup, une autre femme qui était assise à l'aide de table plus loin, elle se met à parler à la petite alors qu'elle la connaissait pas du tout. Enfin, ils avaient l'air d'avoir absolument aucun lien. Elle lui dit, d'un ton un peu méchant, « Arrête de pleurer, t'es pas belle quand tu pleures. » Et là, genre mon cœur, il a fait un bond. Je sais pas, pour moi, c'était fou d'entendre quelqu'un dire ça. Enfin, ça paraît être une petite phrase lancée un peu futile comme ça et qui a pas trop de sens, mais ça m'a semblé fou, en fait, qu'on puisse dire ça à une petite fille qui avait rien demandé, quoi. Et en plus qu'on s'interpose dans l'éducation en plus de la mère par rapport à ces petites filles alors que enfin, ça n'avait pas du tout lieu d'être. La petite, du coup, entendant ça, elle se cache un peu dans les bras de sa mère sait pas quoi dire et tout. Et moi, du coup, je me tourne, je sais pas, j'étais prise d'un truc, j'ai senti qu'il fallait que je me tourne. Et je me tourne vers la femme qui a balancé ça. Et là, on se met à avoir une conversation. Et je lui dis, je me tourne vers elle et je lui dis, pardon, pas belle. Et je lui dis, mais comment vous pouvez dire à une petite fille qu'elle est pas belle, elle pleure, elle a juste des émotions, elle a le droit de lâcher des larmes. C'est normal et vous devriez juste avoir de la compassion et un peu de douceur, quoi. Et puis je lui rajoute, ça vous regarde pas et être belle, c'est juste une injonction de la société qui fait que d'être véhiculée par des gens comme vous et qui détruit juste la confiance en soi. Et elle me dit sur ça, elle surenchérit, elle me dit, mais c'est vrai, c'est pas beau une fille qui pleure, les garçons ils aiment pas ça. Et je dis, les garçons, mais selon vous, on doit ranger nos émotions pour plaire à des hommes. Je lui rappelle que c'est une femme. Je lui dis, mais vous êtes une femme et personne ne doit cacher ses émotions pour plaire. Et je lui dis, sachez qu'on pleure autant qu'on voudra et si les hommes sont pas prêts à ça, il va falloir qu'ils apprennent eux aussi à pleurer. Et je lui rajoute, on vous a rien demandé, vous avez pas jugé les larmes de quelqu'un et surtout sous prétexte d'un dictat de beauté à la con. Et là, je termine sur une phrase dont je suis assez contente.
Et je lui dis, je vous conseille de vous en aller vous occuper de votre cœur de pierre et d'aller revoir votre éducation. Et là, elle se tait, elle lance 5 balles sur la table pour payer son café et elle s'en va. Et là, j'étais tellement contente. J'étais tellement contente d'avoir gagné. Parce que ça voulait aussi dire qu'elle avait réalisé que quelque chose était légitime dans ce que je disais. Et moi, j'étais persuadée que j'avais raison, en fait, de réagir comme ça.
Ah, mais je confirme.
Ah bah là
Je confirme, Laura. Tu avais 1000 fois raison, et en plus, c'est une main de maître, quoi.
C'est... Ah, franchement, elle l'a enchaînée, quoi.
Ah ouais.
Franchement, là, c'est un truc de malade.
Le nombre de punchlines dans le même témoignage.
Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs. Je prends des notes.
C'est ça, en fait. On pourrait vraiment faire des cartes pour le jeu, là, avec ces punchlines. Ouais, moi, je trouve ça dingue, tout ce qu'on projette sur les enfants. Dès qu'ils sont tout petits, on va dire aux filles, ah, oh, t'es jolie tout le temps. Aux garçons, ah, t'es fort, machin. Tu seras intelligent et fort, machin. Et en fait, voilà, on se rend pas forcément compte à quel point on projette sur eux, bah, déjà une sexualisation, hein, parce que quand elle dit ça plaît pas aux garçons, si la petite elle a 5-6 ans, en fait, c'est pas sa préoccupation première de plaire aux garçons. En plus, ça se trouve, elle préfère les filles, donc laisse-la tranquille, en fait. Donc tout ça, c'est évidemment très, très, très hétéro-centré, hétéro-normé et patriarcal. Et voilà, enfin, je veux dire, moi, ça, c'est un truc qui me fatigue, qui me choque vachement. On en avait parlé dans un épisode, je crois, sur les Warriors Juniors. Et il y avait aussi un épisode très intéressant, je crois que c'était un podcast à soi, où elle montrait, enfin, il y avait une enquête dans une crèche. Où oui. En fait, il parlait de ça, en fait, de à quel point, dès la naissance quasiment, même avant la naissance, en fait, on projette des choses sur l'enfant. Ouais. Et voilà, c'est là que ça démarre, en fait, c'est pas après.
Et c'est à travers des petites phrases comme ça qu'on laisse le shaitan s'installer en chacune de nous, en fait.
Voilà.
C'est vraiment des petites phrases qui paraissent complètement anodines, mais qui, en fait, vraiment font le travail de construction d'un rapport genré, quoi, entre les humains.
Tout à fait. Et juste sur les hommes, parce qu'elle dit les hommes, faudra qu'ils apprennent à pleurer. Je vous conseille vraiment un épisode du podcast Émotion, si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien, qui parle des larmes des hommes et c'est vraiment très très touchant et très 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 intéressant. Enfin, moi j'ai appris plein de trucs et il y a beaucoup de témoignages super touchants d'hommes qui parlent de
leurs émotions.
Ouais, et du fait que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a dit tu dois pas pleurer en fait. Tu te fais taper, tu dois pas pleurer, t'es triste, tu dois pas pleurer. Enfin, effectivement, c'est ces petites phrases accumulées qui font que bah il y a la masculinité toxique qui se développe alors qu'à la base, c'était pas comme ça en fait.
Tu t'as accumulé une frustration incroyable en fait à force de pas t'exprimer comme ça, de
c'est
pas
ça.
Laisser sortir les choses.
Tout à
et
fait.
Du coup, ça se transforme en violence.
Voilà.
Génial. Bien, ben on va passer à notre warrior suivante. C'est Sarah Zouak. Sarah, c'est une copine. Quand on a décidé de faire un épisode sur la misogynie intériorisée, j'ai tout de suite pensé à elle. Il est fort probable que vous la connaissiez aussi, parce que c'est un peu une rockstar dans les milieux féministes. Mais je ne vous spoile pas et je vous laisse écouter son témoignage.
Très jeune, j'ai réalisé qu'être une jeune femme arabe et musulmane, c'était pas forcément la meilleure des choses dans notre société française. On était voilà constamment représentés dans les médias ou dans les discours politiques, nous femmes musulmanes comme des femmes soumises, comme des femmes oppressées, comme des femmes sans aucun libre arbitre, et où la religion de l'islam serait forcément la religion la plus misogyne qui soit. Et du coup voilà, ça nous permet pas vraiment de grandir en ayant une image positive de nous-mêmes. Et donc c'est très tardivement, j'avais à l'époque 24 ans et je venais de lire le livre Féminisme islamique de Zahra Ali qui a complètement changé ma vie. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais du mal avec le mot féministe parce que je me retrouvais pas du tout représentée dans ces mouvements féministes occidentaux. J'avais l'impression qu'il y avait un seul chemin d'émancipation qui était possible pour les femmes musulmanes, qui était celui de devoir forcément rejeter notre foi. Et donc voilà, l'islam et le féminisme c'était pas forcément des identités compatibles. Et je me rappelle quand j'ai fini ce livre, j'étais en train de pleurer de joie parce que pour la première fois de ma vie, en fait, cette honte qui s'était profondément enracinée en moi s'était transformée en fierté, parce que je réalisais qu'en fait, je faisais partie d'un héritage de femmes musulmanes incroyables, où partout dans le monde, elles relisaient notamment les textes du Coran avec une perspective féministe, mais bien plus que ça, qu'en fait, si je me définissais du coup maintenant comme féministe, c'est parce que je suis musulmane, c'est parce que les principes de justice et d'égalité sont au cœur de ma foi. Ce qui fait que je me rappelle me dire mais je voulais qu'en fait toutes les femmes musulmanes ressentent ce même sentiment de paix que ce livre m'avait apporté. Et ça m'était paru très évident du coup à l'époque de faire mon mémoire justement sur ces mouvements de féministes musulmanes. Et j'étais partie voir une professeure très renommée dans mon école qui voilà une grande féministe qui écrit pas mal de livres, qui plutôt voilà qui passe à la télé et tout ça. Et quand je lui avais présenté mon sujet, elle avait rigolé et elle m'avait dit mais Sarah c'est n'importe quoi. Hein. À un moment va falloir choisir. Hein. C'est soit tu es musulmane, soit tu es féministe, mais tu peux pas être les deux. Et je me rappelle pour la première fois me vraiment tenir tête en fait à une figure d'autorité, lui dire non en fait je vais faire ce mémoire et bien plus en fait puisque grâce à elle et au fait qu'elle croyait pas en moi, ça m'a presque poussée du coup à monter le projet du coup le Women Sense Tour in Muslim Countries, donc qui est un projet documentaire où je suis allée pendant 5 mois dans 5 pays majoritairement musulmans, donc au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Iran, en Indonésie, pour aller à la rencontre en fait de tous ces modèles de femmes qu'on m'avait jamais montré en fait, tous ces modèles de féministes musulmanes qui allient très sereinement leur foi et leur engagement pour l'émancipation des femmes. Et on a pu depuis sortir des documentaires avec Justine Devillaine qui a co-réalisé avec moi ce documentaire. Et voilà, on a pu organiser plus de 250 projections débats auprès de 25 000 personnes. Et surtout, on est allé encore plus loin puisqu'on a pu ensuite créer notre association donc féministe antiraciste, la LAB, qui fait entendre les voix et défend les droits des femmes musulmanes qui sont au cœur d'oppressions à minima sexistes, racistes et islamophobes. Et vraiment, notre lutte, c'est une réponse justement politique et collective à ce système patriarcal, raciste, colonial et capitaliste qu'on connaît malheureusement que trop bien. Donc pour la petite histoire, ma directrice de mémoire ensuite m'a quand même donné une très très bonne note. Mais elle m'a dit, voilà, on va se mettre d'accord sur le fait qu'on sera jamais d'accord. Et aujourd'hui, bah, du coup, on continue, en fait, voilà, notre lutte avec la LAB, notamment pour justement toujours placer les femmes musulmanes au cœur des luttes, des représentations, des réflexions et surtout des prises des décisions, puisque, en fait, qui mieux que nous-mêmes pouvons décider ce qui est le mieux pour nous. Donc, voilà, c'était cette petite réponse, en tout cas collective, que j'ai essayé de lui apporter à elle, mais surtout, tout simplement, à toutes.
C'est pas une petite réponse, ça. C'est pas
Elle a même pas blagué avec elle.
Bravo, Sarah. Et j'imagine la tête de la prof en question quand prend la parole à l'ONU, parce que c'est ce qu'elle fait maintenant. Donc, elle fait un travail incroyable et je vous invite à aller lire tout le contenu que son asso produit. Donc, c'est lalab.fr, lalab.fr. Éventuellement, à y adhérer. Donc, cette fois, c'est lalab.org. Donc, Sarah, elle survit à des attaques constantes de toutes parts dans les médias et dans les sphères politiques. C'est vraiment une warrior de l'espace. Et donc, voilà, moi je la félicite 1000 fois, je sais pas comment elle fait. Et dans son témoignage, il y a deux choses que j'aimerais relever, soumettre à l'attention de nos auditrices. Le fait que sa propre révélation vienne en lisant un bouquin écrit par une femme. Donc, quand on vous dit que la sororité, c'est important, produire du contenu, travailler sur des représentations au pluriel, c'est aussi permettre à d'autres femmes de se trouver ou retrouver, d'avancer. Donc, il n'y a pas de petite victoire. Si ne serait-ce qu'une seule sister trouve des réponses à ces questions dans vos récits, c'est que ça valait le coup de les raconter.
C'est clair.
Et ensuite, le deuxième point, c'est l'universalisme. Donc, c'est le courant en tout cas féministe auquel sa professeure semble appartenir. C'est un courant féministe selon lequel ça part d'une notion d'égalité. En fait, on s'imagine que tout le monde peut être vraiment à égalité et que donc il n'y a plus qu'une seule voie d'émancipation pour les femmes. Alors qu'on peut pas se contenter de proposer sa propre vision à toutes les femmes. C'est un sujet de conflit d'ailleurs entre le féministe, donc je fais un petit point à ce sujet-là. Alors, il y a autant de façons d'être libre que de personnes. Quand on dit mon corps, mes choix, ça vaut aussi pour la religion, ça vaut aussi pour n'importe quel choix, c'est pas bon uniquement pour l'avortement en fait. Je passe sur le point laïcité en France, hein. Enfin non, en fait, ben, je vais pas me retenir. En France, on a le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Et non, on n'est pas obligé de le cacher quand on pratique. Et guess what? Ben, y a autant de diversité parmi les femmes musulmanes que parmi les athées, les chrétiennes, les juives, les bouddhistes, les hindous, etc. La liste est longue. Bref, vous avez compris le principe. On est diverses. On n'est pas un bloc monolithique et tout le monde a le droit à la parole et le droit d'être représenté. Donc, comme je vous le disais en intro, quand on grandit dans une société donnée, on est forcément imprégné de sa culture, mais aussi de ses problèmes. Et là, typiquement, on est dans une posture, sa prof est dans une posture impérialiste, selon laquelle l'émancipation passerait forcément par l'éloignement de la religion, et qui plus est de la religion que nous, occidentaux, voyons comme la plus sexiste, alors que je crois qu'on n'a pas trop de leçons à donner de ce côté-là. Le christianisme, c'est pas non plus réputé pour être féministe. Donc on fait quelques assouplissements, on se détend, et on permet à chacune et chacun de faire à peu près ce qu'il et elle veut.
Moi, ce qui m'a...
Un grand verre d'eau.
Ouais, voilà. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est ce truc qu'ont certaines femmes à donner des brevets de féministe à d'autres femmes. Voilà, c'est non, t'es musulmane, donc tu peux pas être féministe, mais ça pourrait être très bien. Oh là là, tu t'habilles en mini-jupe avec des petits talons et t'aimes bien te maquiller, machin, mais non, mais tu peux pas être féministe. T'es travailleuse du sexe, non, tu peux pas être féministe. Enfin, au bout d'un moment, en fait, on fait toutes des choix de vie différents, selon notre histoire, selon nos valeurs, selon notre culture, selon, enfin, tout la façon dont on était, plein de choses. Donc, voilà quoi, on fait aussi en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on aimerait être. Et voilà, enfin, au bout d'un moment, on n'a pas à dire toi, tu peux être féministe, toi, tu peux pas, toi, machin. Enfin, ça m'énerve.
Qu'on ait des raccourcis ou des idées préconçues sur sur certaines choses, ça je l'entends, on n'est pas perméable aussi au discours dégueulasse qui a dans notre, pas imperméable du coup au discours dégueulasse qu'on entend.
Et puis on ne peut ne pas être d'accord, elle aurait pu discuter sur le fond, sur je sais pas, sur des choses, peux ne pas être d'accord avec la version de quelqu'un, mais de là à... enfin bref, pardon, je t'ai coupé.
Mais je ne sais plus où je veux en venir.
Moi je voulais parler aussi d'un podcast qui est sur le même thème, que j'ai vraiment adoré, que je recommande à tout le monde, et d'ailleurs je pense que ça pourrait faire l'objet de 50 épisodes. C'est le dernier épisode de Tarab, qui est un podcast de Binge Audio qui est animé par Leïla Isra, et en fait elle parle justement des féminismes dans le Maghreb et le Moyen-Orient, et franchement on apprend beaucoup 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 de choses. Très 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 intéressant.
Yes. Je note précieusement.
Je le mets dans la description aussi.
Je l'écoute et c'est vrai qu'il est très très cool.
Bien, bah, bravo Sarah, bravo mille fois. Je vous invite encore une fois à aller découvrir son asso. C'est vraiment énorme ce qu'elle fait, mais je vous invite à la soutenir à fond. Et on passe à notre prochaine warrior. Cette fois c'est d'Agathe dont on va parler.
Oui, alors Agathe, elle nous raconte une histoire qui a commencé dans un covoiturage.
Je vais vous raconter une histoire qui commence un covoiturage avec trois femmes incroyables. Et avec l'une d'elles qui me demande... Mais qu'est-ce que c'est le féminisme pour toi ? Parce qu'elle, elle me disait qu'elle n'avait pas trop vécu de situation de discrimination sexiste au travail et dans sa vie, et que depuis les luttes féministes du XXe siècle, elle voyait plus trop ce pourquoi il restait à lutter. Donc j'ai décidé d'aborder la question sous l'angle des agressions et de la prédation sexuelle que subissent encore plein de femmes, pour montrer qu'il y avait encore du chemin à parcourir. Ce qui est, entre guillemets, bien avec ce thème, c'est qu'on a tous et toutes des exemples à donner, plus ou moins personnels, selon la situation dans laquelle on discute et selon la personne à qui on parle et l'état émotionnel dans lequel on est. Donc par exemple, moi j'ai rappelé à ce moment-là qu'une femme qui boit trop, bah, elle a le risque de se faire agresser sexuellement, alors qu'un mec qui boit trop, bah, il risque de se réveiller avec une bite dessinée sur le visage, quoi. Pas tout à fait le même niveau de risque. J'ai aussi rappelé qu'on était toutes amenées à mettre en place plus ou moins consciemment des stratagèmes pour éviter de se faire agresser sexuellement, et que malgré ça, lorsqu'une femme subit une agression sexuelle, on va souvent lui attribuer une part de responsabilité, alors que les agresseurs, eux, sont peu inquiétés, voire même pas du tout, voire on leur cherche même des excuses. Par exemple, il avait trop bu, ou c'était une blague, mais non, mais c'est un mec bien. Ensuite, on s'est arrêté dans un café, et on a été rejoint par d'autres covoitureurs avec qui on voyageait. Et quand je vais aux toilettes, c'était des toilettes mixtes, je vois sur la porte un logo sur lequel l'homme regarde par-dessus la barre de séparation la femme qui était aux toilettes. Et du coup, j'étais en mode genre « Ah !» Mais c'est la parfaite illustration de ce que je racontais dans la voiture. En effet, pour moi, c'était la prédation sexuelle dans toute sa splendeur, car elle est dédramatisée, elle est tournée en humour. Du coup, ça nie à toutes ces femmes la dureté de ce qu'elles peuvent vivre, et même ça perpétue ces pratiques de prédation, car elles sont pas prises au sérieux et cautionnées. Et donc j'en ai discuté avec les autres, qui ont fini par voir ce qui était dérangeant dans ce logo. Et finalement, je suis même allée en parler avec le gérant, toute seule, pour pas qu'il se sente pris en défaut. J'avais pas l'intention de blâmer ou de faire la morale, j'avais juste besoin en fait d'exprimer ce que je ressentais. Du coup, je lui ai dit que j'étais triste de voir ces choses-là tourner en dérision, parce que certaines personnes ressentaient une vraie souffrance. Et le gérant l'a retiré tout de suite en disant que c'était pas son intention. Et ça a impressionné tout le monde que j'ose aller lui en parler, et on a tous été hyper positivement surpris de son accueil. Et pendant la suite du voyage, la parole d'autres participantes a été libérée sur le sujet. On a continué à parler de féminisme et on a débattu au sujet de l'humour oppressif pour se demander si vraiment on ne pouvait plus rien dire. Donc finalement, on a tous beaucoup appris les uns des autres. On a remis en question nos conceptions du féminin entre guillemets et du masculin entre guillemets. Et pour finir, la femme qui m'avait posé la question sur ce que c'était le féminisme pour moi a fini par me dire que mon féminisme était inspirant. Du coup, c'était une belle victoire pour moi d'avoir osé parler, de voir que ça avait été bien accueilli et aussi que ça avait inspiré toutes les personnes qui étaient présentes lors de cet événement. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes pour inspirer d'autres personnes en ce sens. À bientôt!
Bravo Agathe.
Merci pour ce témoignage Agathe.
C'est cool parce que ça montre que des fois ça peut bien se passer.
Oui, c'est ça.
Parce que souvent quand même c'est des débats pénibles et ouais. Là c'est bon d'avoir des gens. Des fois de temps en temps tu peux avoir des gens qui sont réceptifs et qui ont vraiment envie d'apprendre quoi.
C'est ça. Et c'est pas mal parce qu'il y a eu un événement au milieu qui a fait que elle a eu une preuve en direct et qu'elle a pu voilà leur montrer que en fait effectivement tu peux parler et avoir des enfin je veux dire les gens peuvent du coup se remettre en question etc. En tout cas ce qui nous intéresse là c'est surtout comment elle a convaincu les meufs. Du coup je voulais vous demander vous ça vous arrive que des femmes que vous rencontrez ou même des amis vous disent mais pourquoi tu te bats c'est bon on a le droit de vote je vois pas
non, ça arrive tout le temps.
Voilà et du coup elle a opté pour l'approche violence sexuelle hein, parce que enfin voilà c'est un peu le truc, comme elle dit, c'est tout le monde peut avoir une histoire autour de ça, quoi.
C'est difficilement contestable.
Voilà, exactement. Et puis on a quand même des chiffres, etc. Ça arrive tellement souvent, en fait, que voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne stratégie. Et on sait que les violeurs, tout comme les pédophiles, bah, vont très rarement en prison. Hein. Mais voilà, je sais pas, est-ce que vous avez d'autres idées de comment on peut convaincre des femmes que bah, si au quotidien, en fait. Tu subis sûrement des choses et parce que c'est ça qu'elle lui dit au début. Elle lui dit moi j'ai l'impression de pas subir aucune discrimination dans ma vie en fait. Et c'est un peu déroutant.
Moi à chaque fois je déroule un espèce de nuancier des possibles en fait, d'exemples concrets. Tu vois typiquement moi mon sujet c'était le harcèlement dans l'espace public. Ouais. Et c'est arrivé plein de fois que des femmes me disent non moi il m'est jamais rien arrivé et que je dis ah, attends il t'est jamais t'a jamais sifflé, on t'a jamais touché les fesses, jamais suivi dans la rue, on t'a jamais montré sa bite, on t'a jamais et en fait là. À chaque fois, la meuf va faire son marché dans toutes les propositions que j'ai dit. Et en fait, elle se rend compte qu'il lui est arrivé plein de trucs. Parce que concrètement, c'est impossible qu'il ne soit jamais rien arrivé. Mais je pense qu'il faut de l'exemple, il faut qu'on puisse s'identifier, en fait. Tant qu'on est sur des faits graves, par exemple, une personne qui n'a jamais été violée, qu'on lui parle de viol, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas se figurer.
Ouais.
Donc si on donne des exemples très simples, c'est beaucoup plus facile de s'identifier, en fait. C'est vraiment le seul truc dont on a besoin pour faire le déclic.
Oui, ou peut-être sur la charge mentale. Tu n'as pas l'impression que tu fais plus les lessives, que tu fais plus à bouffer. Etc. Oui, que c'est toi qui penses toujours au rendez-vous des médecins pour les enfants.
Exactement, c'est plus même le travail du care en général, donc le care, c'est-à-dire prendre soin des autres, que ce soit le travail bénévole entre guillemets dans le couple ou à la maison, ou même dans le monde du travail en fait, tout ce qui est les métiers du soin qui sont principalement occupés par des femmes et qui sont généralement sous-payés. Hein. Le meilleur exemple quand même, ça reste encore les infirmières quand même, enfin il me semble, hein, qui ont quand même plus beaucoup, enfin ils ont un bac plus 3 et
les sages-femmes c'est pas mal aussi.
Sages-femmes aussi, qui ont quand même des niveaux d'études supérieurs et qui ont des salaires de misère et des boulots de fou avec beaucoup de responsabilités. Et ça reste des métiers majoritairement féminins. Donc la question, c'est tu crois que c'est normal ? Pourquoi est-ce que ces métiers-là sont dévalorisés ? Alors après, on te dit oui, mais c'est parce que les femmes naturellement, machin. Et là, on peut dire attends, c'est-à-dire que quoi ? Qu'il y a le gène de je m'occupe des autres.
Elles ont fait des études, les mecs peuvent aussi les faire, ces études-là.
Exactement.
Ouais. Bah, cette question de naturel, de l'inné, tout je trouve que c'est un peu compliqué. Hein,
oui, là, c'est très compliqué.
Parce que c'est dur d'avoir une preuve, tu vois, genre scientifique, entre guillemets. Ça va être plus de l'ordre des sciences sociales. Pour moi, c'est prouvé dans tous les sens, hein, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire si, il y a quand même de l'inné et tout ça.
Bah oui, bah parce que quand depuis des siècles on t'apprend à être comme ça, à un moment donné, tu l'intègres.
C'est
comme les espèces animales qui s'adaptent à leur environnement. On est des animaux, donc on s'adapte aussi.
Complètement.
Malgré nous, parfois. Mais ouais, en tout cas, très bonne méthode dans ce témoignage. Je trouve que c'est très bien. Et en plus, le plus dur, c'est de garder son calme pour moi, perso.
Donc,
là, c'est très bien joué.
Carrément.
Voilà, Marga, tu nous présentes notre prochaine warrior.
Oui, alors vous vous rappelez peut-être de M qui avait raconté sa réaction après l'agression qu'elle avait subie dans le milieu militant. C'était dans l'épisode 9 de Yes. Et quand elle a vu l'appel à témoignage sur le sexisme des femmes, en fait, elle nous a renvoyé un message parce qu'elle avait envie d'approfondir un petit peu ça. Parce que pour vous rappeler rapidement le contexte, donc M, elle a subi une agression dans un collectif de lutte contre les violences policières qui rassemble des militants de quartiers populaires. Elle nous avait donc déjà parlé de la difficulté qu'elle avait ressentie en tant que femme racisée pour dénoncer cette agression. Parce que ce qu'elle précise là, parmi les nombreux soutiens de son agresseur et des personnes qui n'ont pas cru ou qui ont dit « Ah, t'exagères », il y avait de nombreuses femmes. Et c'est ça qui l'a marqué, c'est toutes ces femmes qui ne l'ont pas soutenue et qui se sont directement rangées du côté de ce militant qui était très apprécié et influent dans le milieu. Donc voilà ce qu'elle raconte.
En fait, on est souvent prise dans un étau quand on est féministe ou quand on est une meuf, tout simplement, par rapport à d'autres femmes et notamment d'autres féministes. C'est que soit on nous demande de pas trop la ramener concernant les violences qu'on peut subir d'autres hommes racisés, parce que du coup, c'est jouer le jeu du racisme, ou alors on nous dit « bon, ça va, il y a pire ». Qu'en gros, ce qu'on fait, ce qu'on vit, c'est rien comparé à la violence qu'elles ont vécue. Donc, c'est bon, faut prendre sur soi, faut patienter. Et en fait, y a rien de pire pour mener la lutte, quoi, de se cacher, de cacher d'autres. La lutte antiraciste, elle doit pas cacher d'autres luttes contre d'autres formes d'oppression. Et puis en plus, c'est ultra méprisant pour les gars de quartier, parce que ça voudrait dire, ça sous-entend clairement qu'eux, ils sont toujours à cette médiocrité de la misogynie et qu'ils ne pourront jamais progresser, quoi. Et moi, je voulais vraiment un changement. Et vraiment, quand je parlais avec ces femmes, je pensais vraiment qu'elles allaient changer, qu'elles allaient comprendre, qu'elles allaient évoluer, qu'elles allaient progresser, qu'en fait, j'allais apporter ce renouveau, ou en tout cas que ça allait faire évoluer certaines choses. Et après, je me suis rendu compte qu'il n'y allait pas avoir de changement parce qu'il y avait des choses qui me dépassaient, qui les dépassaient. Et moi, ma victoire particulière, ça a été de faire cette autocritique en public. À l'occasion d'un forum que Femmes en Lutte avait organisé en décembre dernier, j'ai pris la parole et j'ai reconnu mon sexisme devant une centaine de personnes. On a grandi, on a été construit par un État patriarcal, par un État raciste. Donc il n'y a pas de raison en fait que moi je n'ai pas été sexiste ou que je n'ai pas été méprisante face à d'autres femmes, sachant que je l'ai reproché à des femmes. Peut-être que moi j'en ai été victime de ce sexisme intégré, mais il est possible que j'en ai été fautive. Oui, j'ai été sexiste. Oui, j'ai profité de cette violence. Et oui, il faut faire cette autocritique, elle est nécessaire, elle est importante. Et surtout, si on veut espérer un changement en face, il faut le commencer. Il faut d'abord le commencer par soi, et on avance, quoi. Donc ouais, ça a été une belle victoire pour moi de l'avouer, et pour les personnes qui m'ont entourée à ce moment-là et qui m'ont donné la force aussi de se l'avouer. Et j'espère que ça va donner la force à d'autres personnes de faire cette autocritique, parce que elle coûte, mais elle fait vraiment beaucoup de bien. Et moi, j'en veux pas, en fait, aux femmes qui m'ont pas soutenue. Parce qu'elles le subissent, en fait, le patriarcat. Et que c'est aussi... on va faire progresser tout le monde, en vrai. Moi, j'ai foi en ça. Alors, on n'est pas amis et tout. On va pas être amis avec tout le monde. Mais on va finir par faire progresser la lutte.
Waouh ! Bravo ! Merci beaucoup, la classe. Même, pour ton témoignage. Et puis, pour ta fidélité aussi. On est super contents de savoir que tu nous suis depuis la saison 1.
Grave.
Donc, merci de nous avoir confié ton témoignage. Donc, il y a plusieurs choses, hein, moi, qui m'ont interpellée. Alors, déjà, minimiser la violence qu'a vécue une autre femme sous prétexte qu'il y a pire. En fait, pour la victime, ça peut être vécu comme un deuxième traumatisme. Surtout quand c'est les débuts, en fait, où on commence à en parler, si la personne qu'on a en face... n'est pas accueillante de cette parole, voire la dénigre totalement, et le risque, c'est qu'on se taise pour toujours, en fait. Ouais, on n'en parle vraiment plus. Donc voilà, si notre femme vous raconte son histoire, juste écoutez-la, soutenez-la, croyez-la. Voilà, soyez vraiment un soutien. Ouais. Et aussi, ce qu'elle dit, c'est super fort, hein, le fait qu'elle n'en veuille pas à ces femmes qui n'ont pas soutenu.
Ouais, c'est méga fort.
Qu'elle se dise, ça l'a plutôt poussée à elle se rendre compte que, mais moi, en fait, j'ai fait ça aussi, et faut que je m'en rende compte pour moi avancer, et puis aussi avancer collectivement, parce que maintenant, elle milite, en fait, sans hommes, dans le collectif, Femmes en Lutte 93. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'ils font sur les réseaux, c'est très intéressant. Donc on a beau être féministe jusqu'au bout des ongles, on a forcément eu et on aura sûrement encore des comportements sexistes.
Hein, c'est hyper long à déconstruire.
Exactement.
Clairement.
Donc voilà, faut pas s'en vouloir, faut pas en vouloir non plus aux autres femmes, hein, comme le dit M. Et voilà, c'est tellement intégré dans notre quotidien qu'on peut pas s'en défaire comme ça, quoi.
Ça se saurait sinon. Si c'était facile, moi j'aurais appuyé sur le bouton depuis longtemps.
C'est
mais
clair,
non, y a pas. J'ai encore aussi des restes, des traces
réflexes,
qui s'expriment plus ou moins par moment, mais c'est très compliqué.
Et ça peut se glisser dans des tout petits détails parce que aujourd'hui justement, on a reçu le message de Justine qui dit en fait qu'elle suit l'activité féministe à fond, elle se bat contre les clichés sexistes auprès de son neveu. Enfin bref, voilà, elle est à fond. Et elle raconte qu'un jour, elle a surpris une conversation entre deux femmes de son quartier qui vantaient les mérites d'un nouveau restaurant qui était tenu par deux femmes et que c'était super bon, voilà, d'après les dires de ces femmes. Et donc Justine nous écrit « Je me surprends à penser, ouais, mais c'est des femmes qui le tiennent, elles ont peut-être pas une formation professionnelle, elles doivent faire la cuisine comme ça. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça ?» Je me suis stoppée en pleine rue, complètement choquée quand j'ai réalisé ce que je venais de penser. Cet épisode m'a fait prendre conscience à quel point il était facile d'être sexiste. On vit dans une société sexiste, ne pas être affectée par ça est impossible. Ce qui est important, c'est de réussir à s'en rendre compte.
Ouais.
Voilà, donc d'accord. Quelques jours plus tard, Justine est allée manger dans ce restaurant et effectivement, apparemment, c'est super bon. Voilà.
Moi, je sais carrément, je fais des grosses recommandations quand je trouve un resto qui est tenu par une chef femme, ouais. Parce que je trouve que ça fait aussi partie du taf de donner de la visibilité, du coup, à des femmes dans des milieux dits d'hommes. Et du coup, il y a des chefs, mais incroyables, incroyables à découvrir. Bon, et du coup, c'est le jour des révélations des Justines, hein, parce que ouais, la prochaine Warrior s'appelle Justine aussi. Elle a 31 ans, elle est event manager, donc elle organise des événements pour des grands groupes hôteliers. Elle est donc en contact permanent avec plein de services différents et notamment celui de la cuisine. Elle nous raconte.
Alors moi, j'ai été élevée principalement par les femmes de ma famille qui en fait étaient des femmes sexistes. Et toute mon enfance, j'ai entendu des phrases comme « t'habilles pas trop court, ça fait mauvais genre, mets pas de sous-vêtements noirs, ça fait allumeuse, te comporte pas comme ces filles-là. De toute façon, les féministes, c'est que des chiennes de garde. » Et par exemple, à 18 ans, je venais d'avoir mon bac S avec mention, j'allais entrer en fac de droit. Mais la seule chose qui préoccupait ma grand-mère, c'était que je lui avais jamais présenté de garçon. Du coup, j'ai grandi avec ces idées-là et petit à petit, sans m'en rendre compte, j'étais moi-même devenue une femme sexiste. Et je pensais que tant que j'étais pas mariée, j'étais pas complète. Du coup, j'étais prête à tous les sacrifices dès que je rencontrais un mec, tout prendre sur moi pour pas le déranger dans sa carrière. Vraiment, la trad wife. Et je pensais que les filles qui se plaignaient dans la rue d'être importunées, elles étaient bien contentes de se faire remarquer, quoi. Et un jour, j'étais à la recherche d'un nouveau podcast à écouter et je suis tombée totalement par hasard sur l'épisode de Yes, les Warriors dans la restauration. Et moi, je travaille dans cette industrie depuis très longtemps et du coup, j'étais vraiment curieuse de voir comment des féministes allaient décrire mon univers dans lequel je ne voyais pas de sexisme. J'ai donc commencé à écouter l'émission, mais hyper sceptique. Et du coup, au fur et à mesure des interventions et des témoignages, je me suis rendu compte que non seulement il y avait du sexisme dans la restauration, hello, mais qu'en plus, j'en étais victime et ou témoin tous les jours sans même m'en rendre compte. Et en fait, là, ça a été un vrai déclic. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que ma vision de la société, en fait, elle était totalement biaisée. Alors, du coup, j'ai continué à écouter d'autres podcasts de Yes et puis d'autres sur le sujet. J'ai commencé à suivre sur Instagram des gens qui parlaient du sexisme, du féminisme, à lire, à me documenter sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte, mais vraiment effrayée, que tout ce que je prenais jusqu'à maintenant pour pas si grave, en fait, ça l'était. Et tout ce que je prenais pour normal, ça l'était pas. Je dois dire que depuis ce jour, ma vision de la société, elle a vraiment évolué. Et du coup, aujourd'hui, mais pour plus rien au monde, je m'abaisserai à tout faire pour être intégrée dans un boy club, quoi. Ça, c'est no way, hors de question. Aujourd'hui, je crie plutôt fièrement sororité, quoi. Donc voilà, c'est pas moi qui, pour l'instant, ai réussi à convaincre une femme au comportement sexiste, mais c'est plutôt vous, les filles, qui m'avez ouvert les yeux. Et pour ça, un grand merci.
En fait, ce témoignage, c'est aussi notre victoire à nous.
Mais oui, de ouf.
Oh, merci Justine.
Merci, j'adore.
C'est super fort d'arriver à faire son autocritique et encore plus d'en témoigner ensuite. Hein. C'est petit peu comme le témoignage de M juste avant, d'arriver à se l'avouer et de carrément l'avouer.
Ouais.
C'est super fort, donc merci beaucoup. Je trouve que c'est une bonne conclusion, ça résume à peu près tout ce qu'on s'est dit. Hein. Ce qui est important, c'est d'être ouverte à la remise en question. Je sais pas vous, Elsa, Marga, mais moi, depuis que j'ai mis mon nez dans les contenus féministes, j'ai changé d'avis, mais sur 8000
bien
sujets.
Bien sûr.
Ça continue encore quasiment chaque jour, c'est une remise en question permanente et surtout c'est un apprentissage permanent.
Ouais.
Donc évidemment, on l'a dit, déconstruire tout ce qu'on a appris depuis la naissance, ça prend du temps, c'est pas immédiat, ça demande d'être un minimum impliqué aussi. Certes, c'est pas confortable, mais on comprend mille fois mieux tout ce qui se passe autour de nous et on grandit chaque jour. Donc si quelqu'un ou quelqu'une vous dit que vous vous plantez, que ce que vous dites est problématique, n'hésitez surtout pas à vous renseigner, à admettre vos torts, ça rend service à tout le monde. Et de l'autre côté, si vous entendez quelqu'une tenir des propos problématiques, vous pouvez, si vous en sentez la patience, amener cette personne à en apprendre plus sur le sujet en question. Si vous avez la flemme, mon conseil perso, c'est de passer sa route. Attention, là, je parle pas d'ennemis politiques, mais de personnes qui peuvent être moins renseignées que vous. Tout le monde n'a pas accès au savoir de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes facilités d'apprentissage, de lecture, etc. Donc n'oubliez pas qu'on est dans le même camp et que tout le monde déteste la police.
Ouais.
Exactement.
Bien, et bien maintenant, c'est l'instant pour se faire du bien, c'est l'instant self-care.
Du, 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 du.
Marga, ce mois-ci, c'est toi qui nous apprends à se faire du bien.
Eh oui, enfin à se faire du bien, on parlait de situation inconfortable, je vais continuer un petit peu sur cette lancée quand même.
D'accord.
Même si bon, on va essayer d'y aller quand même un petit peu en douceur. On parlait justement de reconnaître son propre sexisme, et ben je vous propose de le débusquer dans notre propre langage. Eh ben oui, parce qu'il y a plein de choses qu'on dit par réflexe sans y penser, et avec tout plein de sexisme dedans. Voilà. Alors, je vous ai préparé quelques petits exemples. Voilà. Par exemple, quand on dit « langue de pute, quelle pute ?» Ouais. Ça vous est jamais arrivé?
Ah bah si, clairement.
Évidemment que ça vous est arrivé. Ça vous... Moi, ça m'arrive encore, d'ailleurs. Donc, à la limite, bon, quand on parle d'une prostituée, bon, pourquoi pas. Et encore, on peut préférer le terme « travailleuse du sexe ». Mais on peut aussi s'interroger, se dire pourquoi est-ce qu'on dit pute en fait? Pourquoi est-ce qu'on dit quelle pute? Est-ce qu'elle nous a fait du mal? Est-ce qu'elle nous a trahis? Est-ce qu'elle nous a manqué de respect? Dans ce cas-là, en fait, on peut juste tout simplement prendre le mot qui correspond à la situation.
Manqueuse de respect.
Il faut se rendre compte qu'on fait de la situation, de la profession et de la vie de certaines personnes une insulte.
C'est clairement, ouais.
Hyper humiliant. Donc, si on y arrive, il faut, enfin, en tout cas, il faut essayer d'arriver à se débarrasser de ce mot-là pour insulter les gens.
Ouais, ouais.
Voilà. Un autre truc qui m'arrive aussi assez souvent, c'est d'utiliser le mot maman.
Ouais.
Alors, oui, c'est mignon hein, si vous parlez de votre mère ou de personnes de votre entourage, mais sinon, sachez que maman vient de l'onomatopée des bébés qui font ma 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 tout le temps, ou des petits blablabla, des petits babillages, et que donc en latin, en grec, ça a donné mama, littéralement le sein. Donc en fait, maman, littéralement, en fait, c'est celle qui allaite. Merci, bonjour. Donc, quand au lieu de dire par exemple, elle est devenue maman, on peut dire elle a eu un enfant en fait.
Ouais.
Voilà. J'en arrive au classique. Avoir des couilles.
Elle est posée sur la commode.
Elle est posée sur la commode ou sur la table où tu veux. Alors, c'est-à-dire qu'on peut pas, voilà, on peut pas être courageuse si on n'a pas une paire de boules poilues ou pas entre
les jambes.
Surtout
quand on connaît la fragilité de ces deux machins.
C'est clair.
Voilà, exactement. Donc voilà, on peut tout simplement dire.
Avoir du cran, avoir, du courage.
Avoir du cran, du courage, ces choses-là.
Et on peut aussi poser ses ovaires sur la commode.
Oui, oui, bah oui. On peut aussi se réapproprier les expressions, voilà. Tout à fait.
Gonade, ça marche bien. À la place, c'est pas genré.
Alors, une expression que je ne supporte pas, c'est se crêper le chignon.
Ah ouais, non.
C'est horrible. Alors, à moins d'être chez le coiffeur, on l'utilise quand même pour des femmes qui ne sont pas d'accord, en fait, qui, genre, se disputent, débattent. Voilà, débattent, c'est ce qu'on va dire pour des hommes.
Il n'y a même pas besoin de se disputer, juste un
simple désaccord. Voilà. Alors que des hommes qui ne sont pas d'accord entre eux, on va dire qu'ils affirment leurs opinions, qu'ils débattent ou qu'ils se battent si jamais ils en viennent aux mains. Donc pourquoi on dirait pas la même chose quand il s'agit de femmes?
On est d'accord.
Et pour terminer, pourquoi est-ce qu'on se définit tout le temps avec le mot fille? On est des filles, salut les filles,
elle est fille.
Ah non.
Alors comme si on n'avait jamais grandi, qu'on était encore des mineurs sous l'autorité de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait nous sommes des femmes. Mais est-ce qu'on peut pas utiliser plutôt ce terme pour nous définir?
Moi c'est comme le mot miss. Quand on dit ça va miss.
Non, mais là je vomis instantanément.
Ça, je ne peux pas.
C'est mort, c'est mort.
Et voilà, c'était quelques suggestions. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, pas besoin de culpabiliser hein, si on a des tics sexistes dans notre langage, si des couilles ou des salopes sortent de votre bouche. On a été élevé dans le patriarcat, on l'a dit, alors nos réflexes de langage sont vraiment très très bien ancrés. Et parfois, on a tout simplement pas d'autres mots aussi, c'est ça qui sort quand on s'exprime. Il faut pas s'empêcher de parler sous prétexte que voilà, c'est peut-être sexiste. Non, je vais peut-être dire un truc sexiste, mais m'empêcher de parler. Non, on peut aussi, de temps en temps.
Il faut qu'on réinvente les insultes aussi.
Et qu'on réinvente les insultes, ce genre de choses.
Il y a des groupes sur Facebook de création d'insultes valables.
Fils de trader, tout ça, quoi.
Voilà. Soyons.
Fourchette à soupe.
C'est pas mal, ça. Racleur de bidet. Soyons créatives et surtout, ne vous laissez pas traiter de mauvaises féministes parce que vous n'avez pas le bon vocabulaire, que parfois vous parlez de façon pas 100% safe. Ça arrive, voilà.
On fait de notre mieux.
On fait de notre
mieux, c'est ça.
Bien, merci Marga. Et c'est la fin de cet épisode spécial Warriors versus femmes sexistes. On espère que ça vous a remonté à bloc et donné plein d'idées pour contrer la misogynie d'autres femmes et recruter de nouveaux éléments dans la gigantesque team sororité. Dans le prochain épisode, on parlera de victoire contre le sexisme dans le milieu artistique. Donc si tu as mené ta révolution en école d'art, si tu as obtenu une bourse encore jamais attribuée à une femme, si tu as produit un travail, une expo, un texte, des photos qui t'ont aidé ou en ont aidé d'autres, si tu mets ta créativité et tes talents au service des causes qui te touchent, bref, si tu as eu ton ou tes moments de gloire dans le milieu de l'art, raconte-nous tout, on veut tout savoir. Tu peux d'ores et déjà nous écrire ou nous envoyer un audio à warriors@yespodcast.fr, on a hâte de lire et écouter ton témoignage. On remercie Amida de nous rejoindre à nouveau, merci Amida.
Merci.
On remercie également l'équipe de Popcast ainsi que l'équipe de Radio BAM à Marseille qui nous reçoit comme toujours. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict, etc., etc. Et si tu veux nous encourager, tu peux nous laisser 5 étoiles sur iTunes et ainsi nous rendre plus visibles. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, t'es notre sœur, tu fais partie d'une gigantesque équipe, t'as de la valeur, tu fais ce qui te plaît, tu corriges, tu rembarres, tu persistes, bref, meuf, t'es une warrior.
Yes!